Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble ce soir pour nos lectures en liberté et la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Nous abordons le chapitre 6e, en novembre 1862. La princesse Maristella monta en voiture et s'assit sur le satin bleu des coussins. Elle serra le plus possible autour d'elle les plis bruissants de sa robe. Conchetta et Caroline montèrent à leur tour, s'assirent en face de leur mère. Un parfum ténu de violette s'exhalait de leur robe rose jumelle. Ensuite, une patte massive se posa sur le marchepied et fit vaciller la calèche sur ses hauts ressorts. Don Fabrice s'installait à son tour. La voiture était pleine à craquer. Les vagues soyeuses et les armatures des crinolines montaient, se heurtaient, se confondaient presque à hauteur des têtes. En dessous, il y avait un inextricable fouillis de souliers, chaussons de soie des jeunes filles, escarpins mordorés de la princesse, vastes chaussures vernies du prince. Chacun souffrait de rencontrer les pieds d'autrui et ne savait où retrouver les siens. On replia les 2 degrés du marchepied. Le laquais reçut un ordre « Au palais Pantaleone !» et remonta sur son siège. Le palefrenier qui tenait les chevaux par la bride s'écarta. Le cocher fit imperceptiblement claquer sa langue et la calèche s'envola. On se rendait au bal. Palerme, à ce moment-là, traversait une de ces périodes de mondanité. Les bals faisaient fureur. Après l'arrivée des Piémontais, après la vilaine affaire d'Aspromonte, le spectre des expropriations et des violences s'était évanoui, et les quelques 200 personnes qui composaient la bonne société ne se lassaient pas de se rencontrer pour se féliciter d'avoir pu subsister. Il y avait une telle succession de fêtes, au fond toutes identiques, que les Salinas avaient décidé de passer 3 semaines dans leur palais de la ville pour éviter de faire presque chaque soir le long trajet de San Lorenzo. Les robes des femmes arrivaient de Naples, dans des caisses noires, qu'on aurait prises pour des cercueils. Il y avait un va-et-vient hystérique de modistes, de coiffeuses et de bottiers. Des serviteurs exaspérés portaient aux couturières des billets affolés. Le bal des Pantaleone serait le plus important de cette brève saison. Il l'était pour tout le monde, par la noblesse des hôtes et le faste de leur demeure. Il l'était pour les Salinas, qui présenteraient ce soir-là à la société la belle fiancée de leur neveu. 10h30, c'est un peu tôt pour se présenter à un bal. Le prince Salinas doit arriver quand la fête a perdu de sa fébrilité. Mais il fallait être là pour l'arrivée des Sedaras, et le maire de Donna Fugata était homme à prendre à la lettre l'heure indiquée sur le carton glacé de l'invitation. Ils ignorent encore cela, les pauvres. Leur faire envoyer l'invitation n'avait pas été chose facile, personne ne les connaissait. Et la princesse Maria Stella, 10 jours plus tôt, avait dû rendre visite à Marguerite Pantaleone. Tout s'était bien passé, naturellement. Mais cela n'en avait pas moins été une des nombreuses petites épines que les fiançailles de Tancrède avaient enfoncées dans les pattes délicates du guépard. On passa la porte d'entrée. On descendit sous la voûte. La voiture disparut dans une cour immense d'où provenaient les piétinements et les lumières des équipages déjà arrivés. L'escalier était de pierre modeste, mais de nobles proportions. De chaque côté des marches, des fleurs naturelles répandaient leur parfum sans apprêt. Sur le palier qui séparait les deux volets, les livrées amarantes des deux laquais immobiles sous leurs perruques poudrées mettaient une note de couleur vive dans le décor gris-perle. Des rires et des murmures pleins de fraîcheur tombaient des deux hautes fenêtres intérieures. Derrière les barreaux, les plus jeunes fils et les petits-enfants des Pantaleone, exclus de la fête, se vengeaient en se moquant des invités. Les dames Salina aplatirent les plis de leurs robes brillantes. Don Fabrice, son gibus sous le bras, les dépassait de toute la tête, bien qu'il se tînt une marche plus bas. On rencontra les maîtres de maison à l'entrée du premier salon. Don Diego, chenu et ventru, aurait paru plébéen sans ses yeux arrogants. Donna Marguerite montrait un visage aquilin de vieux chanoine entre l'éclat de son diadème et son triple collier d'émeraude. « Vous êtes venu de bonne heure, tant mieux !»« Mais soyez tranquille, vos invités ne sont pas encore arrivés. » Cette nouvelle épine causa quelques désagréments aux griffes sensibles du guépard. Tancrède aussi est arrivé. Dans l'angle opposé du salon, le cher neveu, noir et mince comme une couleuvre, tenait compagnie à 3 ou 4 jeunes gens et les faisait rire aux larmes par des anecdotes assurément risquées. Mais ses yeux, inquiets comme d'habitude, fixaient la porte d'entrée. Les danses avaient déjà commencé. Le son de l'orchestre installé dans la salle de bal parvenait jusqu'au Salina à travers 3, 4, 5 salons. Angélique et Don Calogero tardaient. Les Salina allaient pénétrer dans les autres salons quand on vit Tancrède planter là son groupe et filer comme une flèche vers l'entrée. Ceux que l'on attendait arrivaient. Au-dessus du tourbillon discipliné de sa crinoline rose, les épaules nacrées d'Angélique descendaient vers ses bras forts et doux. Sa tête se dressait petite et dédaigneuse sur un cou jeune et lisse orné de perles intentionnellement modestes. Quand sa main assez grande, mais de forme parfaite, sorti de son long gant glacé, on vit briller le saphir napolitain. Don Calogero marchait dans son sillage, petit rat gardien d'une rose flamboyante. Ses vêtements étaient sans élégance, mais cette fois fort décents. Sa seule erreur fut d'arborer à sa boutonnière la croix de la couronne d'Italie qu'on lui avait accordée récemment. L'objet disparut d'ailleurs bien vite dans une des poches clandestines de Tancrède. Angélique avait appris de son fiancé l'impassibilité, ce fondement de la distinction. « Tu ne peux être expansive et bruyante qu'avec moi, ma chérie. Pour tous les autres, tu dois être la future princesse de Falconeri. Beaucoup lui sont supérieurs, il n'en est aucun qu'elle n'égale. » En conséquence, son salut à la maîtresse de maison fut un mélange peu spontané, mais très réussi de modestie virginale, de hauteur néo-aristocratique et de grâce juvénile. Les palermitains ne sont après tout que des Italiens, c'est-à-dire des hommes sensibles à la fascination de la beauté et au prestige de l'argent. D'un autre côté, Tancrède, bien que séduisant, était notoirement pauvre. Et on ne le tenait pas pour un parti désirable, à tort du reste. On le découvrit trop tard. Il était apprécié des femmes mariées plus que des jeunes filles. Ses mérites et ses démérites réunis valurent à Angélique un accueil d'une chaleur imprévue. Quelques jeunes gens se désolèrent peut-être de n'avoir pas su dénicher pour leur propre compte une si belle amphore, toute pleine de pièces d'or. Mais Donna Fugata était le fief de Don Fabrice. Qu'il ait trouvé lui-même ce trésor et l'ait passé à son cher Tancrède, on ne pouvait pas plus s'en plaindre que s'il avait découvert une mine de soufre sur une de ses terres. C'était son bien. Il n'y avait rien à dire. D'ailleurs, ses fugitives oppositions s'évanouirent devant le rayonnement des beaux yeux verts. Il y eut même une véritable bousculade parmi les jeunes gens qui voulaient être présentés à Angélique pour lui demander une danse. À chacun d'eux, sa bouche de fraise dédiait un sourire. Elle montrait à chacun son carnet, où toutes les polkas, les mazurkas et les valses étaient marquées d'une signature possessive, Falconeri. Du côté des jeunes filles, ce fut une avalanche de propositions. « Tutoyons-nous !» Au bout d'une heure, Angélique se trouvait à l'aise au milieu de gens qui n'avaient pas la moindre idée de la sauvagerie de sa mère, ni de la ladrerie de son père. Sa dignité ne se démentit pas une seconde, on ne la vit jamais errer seule, la tête dans les nuages. Ses bras ne s'écartèrent jamais de son corps. Sa voix ne s'éleva pas au-dessus du diapason du reste assez haut des autres femmes. Tancrède lui avait dit, « Vois-tu, ma chérie, nous tenons, et toi aussi désormais, nous tenons à nos demeures et à notre mobilier plus qu'à tout. Rien ne nous offense davantage que de les voir négligés, donc regarde autour de toi et loue ce que tu vois. Du reste, le palais Pantéléon le mérite bien. Mais tu n'es plus une petite provinciale qui s'étonne de tout. Tu devras donc nuancer tes louanges de quelques réserves. Admire, mais compare toujours avec ce que tu as vu de meilleur et que tu choisiras d'illustre. » Les longues visites à travers le palais de Donna Fugata avaient beaucoup appris à Angélique. Elle put ainsi admirer les tapisseries de Pantaleone, mais dire que celle du palais Pitti avait de plus belles bordures, louer une Madone de Dolci, mais rappeler que celle du grand-duc avait une mélancolie plus expressive. Elle affirma même, en mangeant une tranche de tarte apportée par un galant, que la pâte était excellente, presque aussi bonne que celle de Montsou Gaston, le cuisinier des Salinas. Comme Montsou Gaston était le Raphaël des cuisines et l'auteur des tapisseries du palais Pitti, le Montsou Gaston de la Haute Lice, personne ne put lui opposer un démenti. Tous, au contraire, se montrèrent flattés de la comparaison. Elle commença, dès ce soir-là, à acquérir la renommée qui devait l'accompagner non sans abus durant toute sa longue existence, celle d'un amateur d'art. Courtois, mais inflexible.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
À nouveau, le roman de Lampedusa, Le Guépard. Après, l'instant musical. Tandis qu'Angélique récoltait des lauriers, Maria Stella caquetait sur un divan avec deux vieilles amies. Conchetta et Caroline glaçaient par leur timidité les jeunes gens les plus empressés. Et Don Fabrice errait à travers les salons. Il baisait la main des femmes qu'il rencontrait, martyrisait l'épaule des hommes qui le saluaient, sentait lentement grandir sa mauvaise humeur. D'abord, la maison ne lui plaisait pas. Les Pantaleone n'avaient pas renouvelé leur mobilier depuis 70 ans. Il datait de la reine Marie-Caroline. Lui qui croyait avoir des goûts modernes s'indignait. Mais grand Dieu, avec les rentes qu'a Diego, ce ne serait pas bien difficile de jeter tout ce bric-à-brac, tous ces miroirs ternis, mais qu'il se fasse donc faire un beau mobilier de palissandre et de peluche, qu'il vive un peu confortablement et qu'il ne contraigne pas ses invités à errer dans des catacombes. Je finirai par le lui dire. Bien entendu, il n'en fit rien. Ses opinions n'exprimaient que sa mauvaise humeur momentanée et sa tendance à la contradiction. Il les oubliait vite. Et lui-même ne changeait rien à San Lorenzo ni à Donna Fugata. Cependant, ses réflexions augmentèrent encore son malaise. Les femmes présentes au bal ne lui plaisaient pas davantage. Deux ou trois parmi les plus âgés avaient été ses maîtresses. En les voyant chargées d'années et de brus, il avait peine à recréer l'image de ce qu'elles avaient été 20 ans plus tôt. Il s'irritait de penser qu'il avait gâché ses plus belles années à poursuivre et à atteindre de semblables horreurs. Les jeunes elles-mêmes ne lui disaient pas grand-chose, sauf deux ou trois. La fraîche duchesse de Palma, dont il admirait les yeux gris et la sévère suavité, et aussi Toutou Lascari, dont, s'il avait été moins âgé, il aurait su tirer de singuliers accords. Mais les autres... Heureusement qu'Angélique était sortie des ténèbres de Donna Fugata pour montrer au palermitain ce qu'est une belle femme. On ne pouvait donner tort au prince. En ce temps-là, les fréquents mariages entre cousins dictés par la paresse sexuelle et les calculs terriens, le manque de protéines dans l'alimentation aggravé par l'abondance des amylacées, l'absence totale d'air frais et de mouvement, tout avait rempli les salons d'une foule de fillettes basses sur pattes, invraisemblablement olivâtres, insupportablement zézayantes. Elles passaient leur temps collées les unes aux autres, lançant en cœur leur appel aux jeunes gens effrayés. Elles semblaient n'être là que pour servir de repoussoir à 3 ou 4 belles créatures qui, comme la blonde Maria Palma, la magnifique Eleonora Giardinelli, passaient en glissant, cygnes sur un étang rempli de grenouilles. Plus ils les regardaient, plus ils se sentaient irrités. Habitué aux longues solitudes et aux pensées abstraites, il finit même par avoir une sorte d'hallucination. Tandis qu'il passait au centre d'une longue galerie devant un pouf où s'était réunie une abondante colonie de ces créatures, il lui sembla qu'il était le gardien d'un jardin zoologique, en train de surveiller les ébats d'une centaine de jeunes guenons. Il s'attendait à les voir brusquement grimper sur les lampadaires et s'y balancer, suspendus par la queue, exhibant leur derrière, accablant les pacifiques visiteurs de coquilles de noix, de cris et de grincements de dents. Bizarrement, ce fut une impression religieuse qui le tira de sa vision zoologique. Monotone, une invocation sacrée s'élevait au-dessus des petites guenons en crinoline. « Marie, Marie, s'écriaient sans arrêt ces pauvres filles. « Marie, quelle belle maison ! Marie, quel bel homme, ce colonel Pallavicino ! Marie, que j'ai mal aux pieds ! Marie, que j'ai faim ! Quand donc ouvrira-t-on le buffet ?» Le nom de la madone invoquée par ce cœur virginal emplissait la galerie et changeait à nouveau les petits singes en femmes. Selon toute probabilité, les ouistitis de la forêt brésilienne ne s'étaient pas encore convertis au catholicisme. Vaguement écœuré, le prince passa dans le salon voisin où campait la tribu des hommes, variés et hostiles. Les plus jeunes dansants, tous ceux qui se trouvaient là, étaient âgés et se comptaient pour ses amis. Il s'assit un moment à côté d'eux. Ici, l'on n'invoquait pas en vain le nom de la reine des cieux, mais les lieux communs et les platitudes rendaient l'atmosphère irrespirable. Don Fabrice passait pour un extravagant auprès de ces messieurs. Son goût pour les mathématiques était considéré comme une perversion pécamineuse, ou presque. Et s'il n'avait été le prince de Salina, si on ne l'avait connu pour un excellent cavalier, un chasseur infatigable et un coureur de jupons d'une honnête moyenne, ses parallaxes et ses télescopes auraient bien pu le faire mettre au banc de la société. Au reste, on lui parlait peu, car l'azur froid de ses yeux, entrevue entre des paupières pesantes, désarçonnait ses interlocuteurs. Souvent, on le laissait à l'écart, non comme il le croyait, par respect, mais par crainte. Il se leva. Sa mélancolie s'était transformée en une authentique et noire mauvaise humeur. Il avait eu tort de venir à ce bal. Stella, Angélique et ses filles se seraient très bien arrangées sans lui. Il pourrait, en ce moment même, être installé tranquillement dans son petit bureau, à côté de la terrasse, rue Salina, écoutant le murmure de la fontaine, tout en cherchant à saisir les comètes par la queue. « Enfin j'y suis, il serait impoli de partir. Allons regarder les danseurs. » Dans la salle de bal, ce n'était qu'or. Or lisse aux corniches, or travaillé au chambranle, or damastiqué et clair, presque argenté, se détachant sur un fond plus sombre aux panneaux des portes et jusque sur les volets intérieurs qui fermaient les fenêtres, les annulaient, conférait à la pièce l'orgueilleuse allure d'un écrin repoussant tout rapport avec un extérieur indigne. Cette tonalité solaire, ces chatoiements d'ombre et de lueur, firent à leur tour souffrir Don Fabrice, qui se tenait noir et raide sur le seuil. Devant ce décor éminemment patricien, des images campagnardes lui venaient à l'esprit. Il retrouvait le chromatisme des chaumes qui s'étendaient à l'infini autour de Donna Fugata, extatique, implorant la clémence d'un ciel sans pitié. Dans cette salle, comme dans les fiefs à la mi-août, la récolte avait été faite depuis longtemps et engrangée ailleurs. Il ne restait ici, comme là-bas, que son souvenir, cette couleur de chaume brûlée et inutile. Les valses dont les notes traversaient l'air chaud lui semblait la stylisation du passage incessant des vents en deuil jouant de la harpe sur la plaine assoiffée. Hier, aujourd'hui, demain, toujours, toujours. La foule des danseurs, qui comptait pourtant tant de ses proches par la chair sinon par le cœur, finit par lui paraître irréelle, taillé dans la matière des souvenirs périmés, plus impalpable encore que la trame des songes. La divinité du plafond, assise sur des trônes dorés, se penchait pour regarder la foule inexorable et souriante comme un ciel d'été. Sans doute se croyaient-elles éternelles. Un jour de 1943, une bombe fabriquée à Pittsburgh leur démontrerait le contraire. Magnifique, prince, magnifique. Des choses comme ça, on n'en fait plus de nos jours au prix actuel de l'or. Sédara était venu le rejoindre. Ses petits yeux malins parcouraient le décor, insensibles à sa grâce, attentifs à sa valeur monétaire. Don Fabrice brusquement sentit qu'il haïssait le maire. C'était à cause de lui et de cent autres de son espèce, de leurs obscures intrigues, de leur avarice, de leur cupidité, que tous les palais baignaient désormais dans l'ombre de la mort. C'était à cause de lui, de ses compères, de leur rancœur, de leur sentiment d'infériorité, de leur incapacité à s'épanouir, que Don Fabrice, devant les habits noirs des danseurs, pensait aux corneilles qui planent, guettant des proies décomposées au-dessus des vallons solitaires. Il eut envie de répondre grossièrement, d'inviter l'autre à déguerpir. Mais il ne pouvait pas. C'était un hôte, le père de la chère Angélique. Peut-être après tout, Don Calogero était-il malheureux, lui aussi. Magnifique, Don Calogero, magnifique. Mais ce qu'il est encore plus, ce sont nos deux enfants. Tancrède et Angélique passaient devant eux. La main gantée du jeune homme posée légèrement sur la taille de la jeune fille. Ils dansaient, les yeux dans les yeux, les bras tendus, enlacés. Le noir du frac, le rose de la robe rapprochée, formaient un étrange bijou. Ils offraient le spectacle le plus pathétique que l'on pût voir. Celui de deux êtres, très jeunes, amoureux, qui dansent ensemble. Aveugles, à leurs défauts réciproques, sourds aux avertissements du destin, persuadés que le chemin de leur vie sera lisse comme le plancher du salon. C'étaient de candides acteurs à qui le metteur en scène fait jouer les rôles de Roméo et Juliette sans leur montrer la crypte et le poison prévu dans le scénario. Ni l'un ni l'autre n'était vraiment bon. Chacun était plein de calculs, gonflé de buts secrets. Et pourtant, ils étaient tous les deux aimables, attendrissants. Leurs ambitions, fort peu limpides mais ingénues, étaient effacées par les mots doux et joyeux que Tancrède murmurait à l'oreille d'Angélique, par le parfum des cheveux de la jeune fille, par l'étreinte de leur corps périssable. Les fiancés s'éloignaient. D'autres couples passaient, moins beaux, aussi émouvants, plongés dans leur cécité passagère. Don Fabrice sentit mollir son cœur. Son dégoût céda la place à une grande compassion pour tous ces êtres éphémères qui tentaient de jouir du mince rayon de lumière accordé à leurs yeux entre les ténèbres qui précèdent le berceau et celles qui suivent les derniers spasmes. Peut-on se montrer dur envers ceux que l'on sait voués à la mort? Ce serait être vil comme ces poissonnières qui, 60 ans plus tôt, avaient outragé les condamnés sur la place du marché. Les petites guenons elles-mêmes sur leur pouf et ces vieux bénets d'amis lui paraissaient misérables, menacés. Ils lui serraient le cœur comme le bétail qui meugle la nuit dans les rues de la ville, en marche vers l'abattoir. Chacun entendrait un jour tinter à ses oreilles la clochette du cortège que lui-même avait rencontré 3 heures plus tôt derrière San Domenico. On n'a rien le droit de haïr, si ce n'est l'éternité. Voilà, nous arrivons pour ce soir à la fin de cette lecture du roman de Lampedusa, Le Guépard, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.